7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 8h45 ou 9h moins le quart, comme on disait avant. Dans 10 minutes, ce sera l'analyse de Rémy Tell et tout de suite la chronique d'Alexandre de Galzin.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexandre. Vos chroniques commencent toujours de la même manière. Déjà, vous arrivez tout fier de vous, beau, intelligent, avec la modestie et la générosité qui vous caractérisent. Mais non content d'une telle entrée en matière, il me paraît que vous prenez un malin plaisir à m'accorder une courte réplique visant essentiellement, et je ne le cache pas d'une manière quelque peu laborieuse, à introduire un non-sujet. J'entends par non-sujet une sorte d'habile broderie sur du vide rappelant les napperons des grands-mères. Non-sujet donc sur lequel vous vous appurez pour enfin lancer un premier sujet, ou me trompais-je ?
Une seule phrase de 103 mots, j'avoue Richard que pour un homme né sous la Restauration, vous avez encore du souffle. Je me suis beaucoup amusé à l'écrire, je l'admets, mais vous avez réalisé l'exercice avec brio. J'en ai préparé d'autres, vous en faites pas, si vous ne butez pas sur un ou deux mots d'ici la fin de la chronique, je veux bien manger mon chapeau à plumes invisible. Alors, je ne vais pas perdre de temps. Jeffrey Epstein. Voilà, le mot est lâché, ça vous embouche un coin, j'imagine, bon. Alors je vais essayer d'être efficace maintenant, et de répondre à la question que tout le monde nous pose depuis quelques jours à la radio. Non, chers auditeurs, malgré mes recherches, on ne trouve pas Richard de Sèze dans la liste. Dans le seul registre sulfureux dans lequel je vous ai trouvé, Richard, c'est celui des grands propriétaires terriens de France. Alors, on y apprend par exemple l'existence de votre hôtel particulier, Ride Rivoli, quand même, et votre château aux 360 hectares de forêt, niché au cœur du Vercors, mais à part ça, rien de particulier. Bon. Alors évidemment, on trouve plein de types que je croyais pourtant vertueux et exempts de tout reproche. Des types comme Donald Trump, le prince Andrew, Bill Gates, Woody Allen, enfin, plein de gens qui n'ont, enfin, j'aimerais dire, qui n'ont jamais rien eu contre eux, et sur le visage desquels était pour moi inscrit en lettres capitales probité.
Des lettres capitales à l'image de la peine que d'aucuns voudraient leur infliger. Et pour ce qui est de la France alors ?
En France, c'est un peu pareil, voyez-vous. Des gens très bien, comme Bruno Le Maire ou Jack Lang, sont mentionnés. Alors, je précise deux choses tout de même. Déjà, être mentionné pendant les fichiers Epstein, soyons honnêtes, ça ne veut absolument pas dire qu'on est allé sur l'île pour se taper des gamines de 12 ans. Jeffrey Epstein était surtout un homme d'affaires, connu pour son entregent assez particulier. Voilà, et la deuxième précision que je voulais faire, Bruno Le Maire a écrit un bouquin particulièrement évocateur qui s'appelait « Fugue américaine ». Je n'évoquerai pas ici son fameux renflement brun, ça serait vulgaire. Et Jack Lang avait signé il y a quelques décennies une tribune favorable à la légalisation de la pédophilie. Il est connu pour ses déplacements dans des hôtels particuliers de Marrakech où se retrouvent de jeunes enfants et était compromis dans l'affaire des lieux de vie du Corral. Alors voilà au sujet de Jack Lang, un auditeur indépendant et anonyme nous a envoyé son opinion, donc on l'écoute.
Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre.
Alors voilà, une opinion tranchée qui ouvre le débat et qu'elle mérite de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Alors, Richard, que pensez-vous de la peine de mort par pendaison pour pédophilie, et plus spécifiquement dans le cas où Jack Lang en serait bien ?
Nous saluons Roger Olyndre au passage. Eh bien, Alexandre, je suis certain, en tant que journaliste neutre et indépendant, que beaucoup y sont favorables.
Voilà une pondération et une mesure qui vous honore, Richard. Honore comme... honore la marque de téléphone chinoise qui produit des prix tout à fait raisonnables des smartphones de qualité robuste et contenant jusqu'à 512 gigaoctets de stockage pour seulement 299€ en entrée de gamme.
Mais Alexandre, foncez. Vous êtes en train de faire un placement de produit caché là, c'est complètement illégal. Qu'est-ce qui vous arrive par Bellenos?
Je me suis fait griller. Bon, enfin, vous voyez, c'est que j'ai pas eu mon augmentation, donc c'est un petit peu difficile de tenir le mois, vous comprenez. Bon, alors je reprends sur Epstein. Oui, alors moi je dis Epstein, parce que plein de disent Epstein ou Epstein. Que voulez-vous, c'est un petit peu mon côté traditionnel, Epstein. Alors certains disent, certaines personnes expliquent qu'il était un agent du Mossad, un agent russe, un agent de l'étranger, un agent je sais pas quoi. Mais je vais vous donner mon sentiment le plus honnête, j'y crois pas trop. Non, je pense simplement que le type était tout bonnement une incarnation de Belzébuth, premier prince des enfers. En fait, honnêtement, j'ai un peu étudié la Kabbale et l'Apocalypse de Saint-Jean, j'ai lu quelques traités de mystique saxon du 7e siècle, je suis à peu près sûr de moi. En fait, Epstein était globalement un être fait de noirceur qui ne contient à peu près en lui aucun élément de lumière, Quand il entre dans une pièce, il aspire l'âme de ses occupants. Il est, par exemple, là, cité, ici, chapitre 6, verset 66. « Et il pervertira par l'argent tous ceux qui croiseront sa route. Il ne se drapera pas dans le manteau du prophète. Il ne corrompra pas la parole de l'évangile. Nu, il avancera comme l'étendard de l'ange déchu, et sur son chemin, les puissants s'inclineront devant les ténèbres. » Alors voilà, bon, moi je trouve que, si vous voulez mon avis, c'est déjà assez évocateur. Mais en fait, il faut se représenter un peu, si vous voulez, Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, voilà, ça vous donnera une idée un peu précise. Alors, en réalité, il y avait une femme aussi, Ghislaine Maxwell, mais je sais pas s'il faut vraiment parler d'une femme quand on évoque en réalité Lilith, la succube originelle, la prostituée. Ils étaient en couple, tout allait bien, et chacun se faisait des orgies avec des dizaines de gosses dans son coin, des parties fines entre multimillionnaires. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail non plus, ce serait malsain, mais faut globalement prendre pour image le lupanar de Tortuga, l'île des pirates des Caraïbes, et remplacer les boucaniers par des types qui pèsent le PIB de la Géorgie, et vous aurez un peu la vision. Alors bon, on peut s'attarder quand même un peu sur Ghislaine Maxwell, qui est toujours vivante pour le moment, parce que personne ne l'a suicidée de 71 coups de poignard. Donc je me suis renseigné. Elle est née à Maison Lafitte, et je trouve que c'est un peu dur comme revanche sur la vie. Non mais, oui, c'est pas le coin où on s'amuse le plus de France, oui, on est considéré comme un membre des classes populaires si on paye pas l'ISF là-bas, mais quand même, de là à faire de sa revanche sur la vie l'organisation de bacchanal pédophile, je trouve ça passablement excessif. Bon, et alors au-delà de ça, il y a un type qui a proposé une commission d'enquête sur l'affaire Epstein pour voir un peu qui était compromis en France. Et ce brave type, c'est Antoine Léaumont, un député LFI. Alors Antoine Léaumont, je vous en ai parlé il y a longtemps, mais petit rappel. Antoine Léaumont, faut se figurer une sorte de suricate à lunettes, à la virilité à peu près inexistante et qui ressemble à Agnan dans Le Petit Nicolas. En fait, c'est le genre de gamin qui était au premier rang et qui expliquait à son professeur d'économie que c'était en filant le salaire universel aux immigrés clandestins qu'on doublerait le PIB du pays. Alors, forcément, il finissait avec 0,5 sur 20 pour hors-sujet, parce que le prof pensait qu'il avait confondu avec la copie de philo, il fallait répondre « l'audace, c'est ça ». Voilà, bon. Alors le gars, forcément, il est député, théoriquement, hein, mais en fait, c'est un peu un emploi fictif, parce que son travail principal, c'est Fox Terrier. Oui, le type, c'est le faillot numéro 1 de Mélenchon. Sur les informations révélées par le canard enchaîné, il aurait changé tout son papier peint pour des pages du programme de l'Avenir en commun. Il aurait chez lui, sur sa table de chevet, un petit hôtel à la gloire du grand timonier, avec une relique qui serait, tenez-vous bien, une rainure d'ongle de Jean-Luc Mélenchon. Wow. Et tous les matins, avant de mettre sa laisse pour aller au travail, donc, il se mettrait à genoux en suppliant son seigneur divin d'avoir un poste de sous-secrétaire d'État au numérique en 2028, après le remaniement du gouvernement Panot 2. Enfin bref, le pauvre type a demandé une commission d'enquête sur les pédophiles, machin, mais manque de peau. Il est accusé de trucs pas très jojo. Ouais. Alors, pas d'instruction judiciaire pour le moment, hein, je précise. Mais il est quand même accusé par l'ancienne compagne de Jean-Luc Mélenchon, l'ignoble Fatima Ben Omar, de ne pas être un type formidable. En fait, je vais vous lire le tweet donc de Fatima. Ce n'est pas bien, par exemple, de te servir de son statut pour faire des avances à une militante insoumise mineure en sachant cette donnée via ce réseau social alors qu'elle voulait juste militer. Tiens-toi tranquille, un jour, elle va grandir et avoir les ressources pour en parler. Alors, mineure, elle va grandir, je sais pas quel âge elle avait, mais... Bah Antoine, oh bah qu'est-ce qui t'arrive, tu te serviras de ta position de chef de la meute des Fox Terriers pour draguer les militantes mineures de LFI ? Mais c'est pas du tout bien, ça. Tu sais que t'as pas le droit. Ou alors, même si elle a un âge supérieur au terrain de chasse de Morandini, tu sais que c'est pas très très moyen, quand même, hein. Bon, alors là, je vous avoue que je tombe un peu délu de mon côté. Imaginez, un type de gauche qui défend de grands principes qui s'appliqueraient pas à lui-même. Non, non, c'est trop gros. Je refuse d'y croire. Comme Mathilde Panot, même phrase. Alors, voilà, donc j'ai une idée d'un type qui pourrait remplacer Antoine Léaumont pour diriger la commission d'enquête. Faudrait un homme ayant une sérieuse expérience politique, qui maîtriserait bien les institutions, qui aurait un peu de bouteille, qui serait pas compromis dans l'affaire Epstein, évidemment.
Mais à qui vous pensez-vous donc ?
Eh ben, ça me paraît évident, je pense à Daniel Cohn-Bendit.
Mais grand Dieu, il va vraiment arrêter d'avoir des idées, Alexandre. Et sinon, Alatigut, Celiac, Anert, Tunerosumic, Pissus, Isamilu, Pissus, Isangat, Sumic, Ekugan, Aral, Yuarpatit.
Richard, va vraiment falloir que vous fassiez une pause sur le Groenlandais. Je crois que vous êtes le seul ici à avoir étudié à l'Université Royale de Nuuk, et je vous rappelle quand même que dans votre cercle des amateurs du Groenlandais vernaculaire, vous n'êtes que quatre en comptant ce pauvre phoque albinos que vous avez érigé en mascotte. Bon alors, vous me demandez si je veux parler d'un autre sujet, donc je fais la traduction, hein. Je pourrais par exemple vous parler des serpillères Swift qui lavent en deux temps trois mouvements toutes les tâches, même celles de graisse, pour seulement 22,90€, une achetée, deux lingettes offertes.
Mais c'est encore un placement de produit, ça.
Et j'étais sûr qu'il allait passer celui-ci pourtant. Bon, alors je vais vous parler d'un truc qui me fait toujours rire, les antifas. L'autre jour, et les types de la cocarde étudiante, donc un syndicat étudiant de droite nationale, hein, qui sont allés tracter à la fac de Nanterre pour essayer de convaincre les deux types qui sont pas encore membres de l'association des non-binaires avec Philippe Poutou ou des racisés avec Manuel Bompard, que non, la vie n'était pas une longue tempête de gauchisme, et qu'il y avait encore une petite lumière au bout du tunnel. Alors là, t'as 30 antifas qui ont débarqué et qui se sont mis à dire aux types de la cocarde de se barrer. Bah non, les gars ils restent du coup, donc ça commence un peu à se muscler. Puis là tu sais, les antifas ils sont à 30 contre 5, donc autant vous dire qu'on n'est pas dans les règles les plus élémentaires de la chevalerie. Donc il y a bagarre, mais un antifa se prend une poussière dans l'œil. Et là le communiqué des gauches est limpide. Une milice fascisto-nazie de 200 types armés de bazookas sont entrés pour faire un génocide de masse, mais ils ont été courageusement repoussés par 5 femmes d'origine peul qui ont montré que le féminisme est plus fort que le virilisme. Bon, et puis là t'as le discours du ouin-ouin héroïque, et puis t'as de l'autre côté t'as Raphaël Arnaud et ses potes qui s'amusent à mettre des coups de pression à tout le monde, qui expliquent en gros qu'il faut tuer tous les racistes et les nazis, et que tous ceux qui ont déjà voté pour Marine Le Pen sont en gros les fils spirituels d'Himmler. Mais bon, rassurez-vous, ce sont globalement des pitres, pas de raison de s'inquiéter, simplement fermez votre boutique Place de la République et tout devrait bien se passer.
Alexandre, nous arrivons heureusement à la fin de cette pénible prestation.
Bon, bah maintenant il faut conclure. Richard, je vous en supplie, laissez-moi faire un dernier placement de produit. Il m'a rapporté 2500 euros celui-ci, s'il vous plaît.
Alors vraiment vite, parce que je ne voudrais pas que l'Arcom nous tombe dessus.
Pour seulement 16 euros, chers auditeurs, soit le prix d'une pizza aux anchois chez Delarte, pour seulement 16 euros, ne manquez pas l'affaire. Achetez De Vrais Gentlemen à propos de quelques anglais de Richard XVI aux éditions Salvator. Et puis Richard a une promotion spéciale avec le code en lettres capitales Vive le Roi. Un gentleman acheté, une belle-mère de droite est-elle de droite offerte. Alors, profitez-en.
Merci beaucoup, Alexandre de Galzan.
Ligne droite, l'analyse.
L'analyse avec Rémy Tell. Bonjour Rémy Tell.
Bonjour Richard, bonjour à tous.
Alors, on s'est dit que ce financier un peu véreux, ce financier un peu foireux, cet homme fréquenté par Jack Lang et une partie des Sarkozy, et par d'une manière générale toute la planète financière, était sans doute un bon exemple de capitalisme.
Oui, et de ce qu'il est devenu. Et la question qu'on pourrait se poser ensemble ce matin, qu'on va essayer de se poser, Richard, chers auditeurs, c'est de savoir ce que dit au fond l'affaire Epstein du capitalisme contemporain et du modèle économique dans lequel on évolue aujourd'hui. Revenons peut-être d'abord sur le parcours qui est parlant du financier pédocriminel, fils d'un jardinier et d'une femme de ménage. Jeffrey Epstein a grandi à Seagate, qui est une petite enclave privée jouxtant Coney Island, le vestige donc d'un temps où le travail honnête permettait aux familles modestes d'habiter les plus beaux rivages de la côte est américaine. Bon élève, Epstein quitte pourtant l'université de New York sans diplôme en 1971, mais peu importe, son charme vénéneux, son appétence pour les mathématiques et une mythomanie certaine suffisent à l'extirper de sa condition d'origine, le plongeant dans les eaux troubles où croisent les grands prédateurs de Wall Street. Il y fera fortune sans autre fait d'armes que la combine. Coup de coude par-ci, fausse identité par-là, bataillon de petites jantes enrôlées dans une gigantesque pyramide de Ponzi, qui s'en offusquerait. Au royaume de l'argent, la morale ne pèse rien, personne chez CNews ne dira le contraire. Tandis que le compte d'Epstein enfle, la liste de ses relations s'allonge, et puisque tout se monnaie, Richard, il tire un profit direct de leurs appétits malades, les livrant à un, probablement plusieurs, services de renseignements étrangers. Loin de gêner ses amis tordus de la haute, Epstein les sert. L'adage est connu, là où il y a gêne, il n'y a pas de plaisir. Or, le plaisir est leur seule loi, jouir entre deux ordres de bourse pour conjurer le jet lag et l'ennui d'une hyperclasse qui s'affaire beaucoup, mais ne travaille finalement pas tant que cela. Et les correspondances électroniques d'Epstein marquent profondément cette vie d'ennui. Et au fond, tel est peut-être le vice propre de ce modèle d'enrichissement relationnel et financier, remettre des fortunes colossales entre des mains oisives, agitées par des esprits vides, un pouvoir démesuré, exercé dans un monde du sang, sans frontières, sans culture, sans foi, sans limite, un monde où tout obstacle se survole en classe affaires ou s'efface par un simple courrier d'avocat. Au dieu de l'argent, rien n'est impossible. Et quand on ne sait plus que faire de ce pouvoir à la fois très concret et en même temps tellement abstrait, on en ravive le frisson en l'exerçant contre les plus faibles D'ailleurs, ils pouvaient sérieusement croire que tout cela finirait autrement. Aujourd'hui, nous pensons aux victimes, celles des abus, des tortures, des meurtres du réseau Epstein, mais aussi à nous tous, peut-être, floués par un ordre économique qui ne permet plus aux gens honnêtes d'habiter Coney Island, mais donne à leur maître droit de vie et de mort sur les esclaves du nouveau siècle.
Alors, on se retrouve avec effectivement une espèce de dérive du capitalisme et surtout d'un capitalisme financier. Est-ce que on peut considérer que c'est une dérive? Est-ce qu'on peut considérer que c'est la financiarisation du capitalisme, c'est-à-dire ce moment d'ailleurs où avec les règlements BAL 1, BAL 2, BAL 3, BAL 4, on finit par passer d'une valorisation dite du capitalisme rhénan, c'est-à-dire j'ai un outil de production avec une force de travail, avec des usines et des machines, et je considère que la richesse de mon entreprise, c'est l'ensemble de cet outil, à un capitalisme à l'américaine, à la Wall Street, où je suis censé évaluer en permanence la valeur de mon entreprise comme si je devais la solder immédiatement, et ce qui fait que mes bâtiments ne sont pas un outil de production, ils ont une valeur immobilière, et donc je dois valoriser ces bâtiments dans mon bilan, et donc évidemment, alors que je produis des machines à outils, si jamais le foncier augmente ou diminue, eh bien la valeur de mon entreprise augmente et diminue indépendamment de ce que je produis, mais vraiment en fonction des différents marchés auxquels je peux raccrocher la valeur de mes machines, la valeur de mes brevets, la valeur de mes immeubles. Est-ce que c'est le moment où le capitalisme vrille, ou est-ce que le capitalisme était-il déjà vrillé auparavant?
Il y a deux options. Donc, je laisse le champ ouvert. Soit on considère qu'il s'agit d'un nouvel âge du capitalisme, soit, au fond, il s'agit plutôt d'un âge où le capitalisme serait, comment dire, revenu dans une forme d'archaïsme, alors qu'il a été contenu pendant plusieurs décennies et peut-être même plusieurs siècles, en réalité par l'État, par la puissance royale, et puis par l'État-nation, et puis par l'État-providence. Et ce qui contenait ses excès, sa tendance naturelle à transformer toute chose en matière première et à relativiser finalement toute morale parce que tout s'achète, cela a disparu. Et donc, on peut peut-être se dire qu'au fond, c'est plutôt un retour en arrière et un retour à une forme d'archaïsme du capitalisme où rien ne retient plus et où les différents acteurs, d'ailleurs, des temps premiers du capitalisme qui utilisaient la force humaine, l'esclavage, pour parvenir à leur fin, étaient imprégnés quand même d'une certaine culture, d'un certain nombre de croyances, etc. Aujourd'hui, on vit dans ce monde dans ce monde du sang, et donc du sang SANS, mais du sang aussi SANG. Et donc, en réalité, on se retrouve avec les premières coordonnées du capitalisme, mais qui ne sont plus adossées à quelconque système culturel. Et c'est la raison du nihilisme, en fait, qui illustre, à mon avis, l'affaire Epstein. Parce que vous l'avez dit, Richard, la réalité aujourd'hui de ces gens très riches, c'est qu'ils tirent la plupart de leurs revenus d'activités passives, en fait, que ce soit d'investissements passifs ou tout simplement de l'extraction donnée et de leur valorisation. On pourrait y revenir d'ailleurs dans la perception aussi que ça peut donner de la masse humaine, puisqu'aujourd'hui, notamment avec la tech, l'essentiel du revenu est tiré justement de cette masse humaine dont on apprend et qu'on monétise. Et donc, comment s'étonner qu'on finisse par la considérer comme une forme de nouvel esclave?
Dans cette idée d'un capitalisme, il y a en fait l'accumulation des richesses, et il y a le moment où l'humanité décide non pas d'être nomade, mais de devenir sédentaire. Et avec la sédentarisation, on commence à avoir une différenciation marquée des fonctions sociales. C'est-à-dire, tant que tout le monde est nomade, ben, tout le monde est chasseur-cueilleur. Alors évidemment, les hommes ont un rôle, les femmes en ont un autre. Alors je ne suis pas en train de faire du patriarcat, je suis en train de parler des données objectives de l'archéologie proto-historique et préhistorique. Et avec le moment où l'humanité se fixe, et c'est un mouvement agricole qui est planétaire, c'est en Chine, c'est en Europe, c'est en Amérique du Sud, voilà. D'une manière générale, il y a un moment donné où on passe du régime de chasseur-cueilleur au régime sédentaire, où le paysan se fixe, met des clôtures, commence à labourer, les uns labourent, les autres élèvent. Alors, bien sûr, le paysan pratique la polyculture et le polyélevage, mais peu à peu se développe le fait qu'il y en a un qui a quand même décidé de tâter du fer, du métal et du feu, et il devient forgeron, et on commence à avoir... une propriété privée qui se développe. C'est-à-dire, si je me suis fixé, c'est ma maison, c'est mon champ. Et donc, on a ce moment historique où l'humanité commence à accumuler des richesses et ces richesses ne sont plus les richesses collectives, mais des richesses individuelles. Et est-ce que c'est le moment fondateur du capitalisme ou est-ce que le capitalisme, c'est autre chose que cette privatisation des richesses communes ?
Votre remarque peut faire penser à la doctrine sociale de l'Église et la fameuse encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Et d'ailleurs, peut-être que dans le choix du nouveau pape de s'inscrire dans cette filiation, c'est pas sans lien non plus avec l'actualité du monde et du système économique qui le régit. La justification de la propriété privée, c'est le fruit qu'on en tire finalement. Et il est justifiable en droit canonique de tirer profit d'une terre dès lors qu'on lui donne des fruits. On la laboure, on y sème et donc on y récolte. Et jusque-là, d'une certaine façon, tout va bien. Et précisément, la numérisation de l'économie, la passivité progressive du système financier, puisque avant, dans les années 80, le système financier reposait beaucoup sur de l'investissement qu'on appelait actif, c'est-à-dire, voilà, on va miser sur telle ou telle valeur. Et aujourd'hui, vous avez ces entreprises dont la plus connue et la plus gigantesque est en BlackRock. Ils font de l'investissement passif, c'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui suivent en réalité le mouvement des marchés. Et donc, ceux qui s'enrichissent sans travail, ce qui signifie qu'il y a quand même une question sur la légitimité en réalité du profit qu'ils tirent. Et on sait que depuis les années 80, on a un mouvement de décorrélation progressive entre le travail et l'accumulation de capital. Il y a un autre point auquel je pensais en écoutant votre réflexion, c'est que vous avez jusqu'au début du 21e siècle un homme avec un petit H et une femme, bien sûr, qui sont indispensables au fonctionnement économique, soit parce que leur force physique sert la machine industrielle, ou soit parce que leur pouvoir d'achat permet de faire tourner l'économie, et c'est le fameux développement à partir des années 45 du crédit à la consommation. Depuis le début du 21e siècle, on a un homme qui est devenu dispensable, d'une certaine façon obsolète, pour reprendre un peu le terme de Gunther Anders, dès lors que les revenus ne sont plus issus de son travail, mais d'une accumulation autoportée du capital, et autoportée en fait par le travail d'un tout petit nombre, qui manipule les algorithmes, qui font de l'ingénierie financière, etc. Et c'est la raison pour laquelle, pendant le Covid, on a beaucoup discuté au fond de cette question de savoir si l'élite ne considérait pas qu'il y avait une forme de masse superflue aujourd'hui au sein du système économique. Et sans doute que les horreurs de l'affaire Epstein renvoient aussi à ça, c'est-à-dire la transformation de toute chose en matière première, y compris de l'être humain, qui perd toute forme de valeur symbolique, et pour n'être même plus l'instrument du pouvoir, mais la fin en soi du pouvoir. L'esclave, c'était encore un instrument du pouvoir, c'est-à-dire qu'on se sert de sa force physique. Là, on ne se sert pas de la force physique, les victimes du réseau Epstein, on les utilise pour de la jouissance en soi. Voilà. Pardon, tout ça est un peu décousu, mais je crois vraiment que le rétrécissement de la place du travail humain dans le capitalisme contemporain permet d'une certaine façon de rendre compte de ces nouvelles servitudes dont l'affaire Epstein est une illustration paroxystique.
Mais ce que je trouve significatif dans cette affaire Epstein, c'est effectivement la manière dont on considère que, à partir du moment où il y a une transaction financière entre deux personnes, au consentement prétendument éclairé, il n'y a pas de question de morale quelconque. Je veux dire, voilà, j'ai l'impression d'avoir les cours de Le Ménissier, de microéconomie de Le Ménissier dans les années 80, où on nous expliquait que, en fait, l'intégralité de la vie sociale pouvait être mise en équation économique et que le taux marginal de substitution était donc le mot-clé de toute morale d'action et que pourvu que j'y trouve un profit et que je sois d'accord dans la transaction, je peux vendre mon droit de vote, je peux vendre mon corps en tout ou partie et que il n'y a aucune raison d'arrêter au nom d'une prétendue dignité humaine ou de quelque morale que ce soit, celle des droits de l'homme, de l'Église catholique ou de la philosophie bouddhiste, rien ne vient supplanter le marché et rien ne doit entraver le marché. Et dans cette affaire Epstein, avec cet homme d'affaires, cet homme d'influence qui utilise les faveurs sexuelles d'hommes et de femmes de tous âges pour arriver à ses fins et évidemment et d'abord assurer sa propre jouissance, on a une espèce d'expression parfaite de cette conception purement économique de l'existence où l'homme n'est plus qu'un producteur et un consommateur et en ayant sa force de travail à sa disponibilité, mais exactement comme l'ont dit d'ailleurs certains députés français à un moment donné, en ayant la capacité en fait de louer son ventre, enfin c'était pas des députés, c'est Pierre Berger qui expliquait qu'on pouvait louer son ventre comme on louait ses bras. Donc il y a quand même une espèce, non pas de dérive du capitalisme, mais de réduction du capitalisme à ce qu'il a été, à la manière dont il a été théorisé au 18e et au 19e, comme étant en fait la plus parfaite expression du capitalisme, c'est le fait de pouvoir échanger quoi que ce soit. Et ça, philosophiquement, les capitalistes ne l'ont jamais remis en cause.
L'argent étant l'intermédiaire universel, il est aussi le relativisant d'une certaine façon universel, puisque le prix que vous accordez à un service ou à un produit intègre un certain nombre de contraintes et pour qui cela intéresse, y compris quand ça comporte un coût moral ou un risque, par exemple. Et donc, si vous avez recours à quelqu'un qui vend son corps, dès lors que il y a un coût moral à le faire et un risque, puisque ça reste de l'ordre du délit, eh bien vous intégrez en réalité ce risque et ce coût moral au prix. Donc, vous allez avoir un prix plus élevé, mais quand on est multimillionnaire ou milliardaire, cette question de la limite se pose plus, puisque vous pouvez toujours surmonter le prix, quel que soit le prix, le prix fixé. Et à nouveau, l'État-providence a permis, je crois, de contenir cette tendance naturelle et originelle, en réalité, du marché à s'étendre sans limite jusqu'aux confins de notre intimité. Mais l'État et la puissance publique ou la régulation symbolique de l'Église, par exemple, ayant été amoindrie, voire même dominée en réalité par les puissances d'argent, et c'est toute la question aussi de la dette, eh bien le marché ne trouve plus aujourd'hui, il ne rencontre plus de limites. Et vous trouvez dans les mails Epstein beaucoup d'échanges, par exemple sur la question ukrainienne, hein, entre Jeffrey Epstein et Ariane de Rothschild, par exemple, sur des opportunités de la guerre en Ukraine. Alors, ce n'est pas le conflit de 2022, c'était le conflit de 2014 déjà. Mais vous sentez bien que cette question de la possibilité de faire du trafic, y compris du trafic d'organes, du trafic d'êtres humains, etc., est présente, puisque ça se monétise finalement comme le reste. Donc je crois qu'en réalité, et ça répond peut-être à votre première question, on n'est pas tant sur une évolution du capitalisme que sur une régression et que sur le retour à sa forme chaïque, sans contenant, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de l'Église. Et donc, quand vous avez cette hyper-concentration, les 1% les plus riches de la planète possèdent quand même la moitié des richesses. Enfin, c'est du jamais vu. Et cette possibilité de surmonter toutes les contraintes liées au coût, eh bien, vous aboutissez voilà, dans ce désir d'exercer son pouvoir de la pire des façons et dans les extrêmes limites, c'est-à-dire de l'imposer aux plus fragiles. J'ai une petite anecdote, mais il y a quelques années, je m'étais trouvé à l'hôtel du Crayon en pleine Fashion Week, à côté de la chanteuse Ellie Goulding, d'ailleurs. J'avais été très frappé par l'ambiance qui régnait au bar du Crayon. Vous aviez des gens qui n'étaient ni noirs, ni blancs, ni hommes, ni femmes. Il y avait cette espèce d'indifférenciation, d'anomie complète. Et on sentait bien que tout était possible. Et qu'au fond, quand tout est possible, tout est accessible, eh ben, il vous reste le frisson ultime. Et le frisson ultime, c'est de s'en prendre aux plus fragiles, c'est de s'en prendre aux enfants. Et en ça, d'une certaine façon, le réseau Epstein est une conséquence logique du fonctionnement économique d'aujourd'hui. C'est pas nouveau, hein. C'est depuis la nuit des temps, on peut trouver ce type de réseau, etc. Mais je crois vraiment qu'il y a un terreau qui est fertile aujourd'hui dans le monde économique.
Alors, juste une parenthèse, voilà, Alain Supiot vient de préfacer aux éditions des Belles Lettres la réédition de 3 sermons de Bossuet sur la pauvreté et la manière dont Bossuet décrit dans une langue absolument admirable le fonctionnement psychologique du riche qui peu à peu, en fait, au fur et à mesure de l'extension de sa richesse, voit l'extension de sa puissance et en vient à considérer que rien ne peut limiter sa puissance et que rien ne doit limiter sa puissance et une dérive remarquablement exprimée. Je voudrais revenir quand même toujours dans cette perspective un peu historique sur la notion de profit. Au début, on a des gens qui se sédentarisent, il y a un partage des terres, les terres ne sont pas forcément propriété de tel ou tel, mais chacun évidemment possède son foyer. Il y a cette dispersion des fonctions et donc peu à peu, voilà, le prêtre, le soldat, l'artisan, le paysan, donc commence chacun à avoir sa sphère de compétences et sa sphère d'influence. Et puis arrive l'idée où en fait je dois réaliser un profit. C'est-à-dire, je ne me contente pas d'échanger valeur pour valeur. Je suis capable de faire une charrue, tu me donneras du grain. Je suis capable de faire pousser du grain, tu m'offriras ta protection. Il y a l'idée que je peux demander plus. Je peux réaliser un profit et faire en sorte que la juste rémunération de mon travail, la juste rémunération du don, entre guillemets, que je fais de ma production, ce n'est pas le contre-don avec une contrepartie exacte, c'est quelque chose de plus qui me permet de gagner une somme. Et ça, cette introduction du profit est quand même quelque chose de tout à fait surprenant dans l'histoire de l'humanité, et c'est ça qui fonde, en fait, évidemment, quelques millénaires plus tard, cette espèce de délire financier où on nous explique que une entreprise vaut 1 000 milliards de dollars, 6 000 milliards de dollars. Et quand vous parliez tout à l'heure des 1% qui possèdent la moitié de la richesse, c'est 1% qui possèdent des vraies richesses, des îles, des montres Rolex, mais aussi des voitures, etc. Mais des actions. Donc, ils possèdent une richesse qui est totalement virtuelle. C'est-à-dire, ils possèdent plus d'argent qu'à Surbanipal et Nabucodonosor, qui avaient des palais et des peuples, mais que vaut cette richesse et surtout cette notion de profit? Pourquoi est-ce que le profit, en fait, est en quelque sorte le péché originel du capitalisme?
Alors tout ça remonte sans doute au XIIe.
Je vous assène mes propres idées très tranquillement au passage.
Non, mais c'est c'est notre jeu de ping-pong habituel du vendredi. On date parfois les débuts du capitalisme financier au XIIe siècle. Au XIIe siècle, vous avez un moment de réchauffement climatique, comme quoi l'affaire n'est pas nouvelle, qui augmente considérablement les rendements agricoles et qui va permettre de créer des surprofits. Et c'est là où, en Italie, à Florence notamment, vous allez voir fleurir les premières banques. Et c'est le début, d'une certaine façon, du capitalisme financier. Pardon, du coup, je ne répondais pas à votre...
Eh bien, c'est pas grave, je vous écoute avec bonheur. Donc, il y avait le début du capitalisme financier, c'est le 12e siècle, où des surplus de denrées Exactement. Alimentaires permettent de constituer une richesse inédite.
C'est ça. Et effectivement, ensuite, vont financer la proto-industrialisation et ensuite l'industrialisation en tant que telle. Ce qui est effectivement assez frappant à nouveau quand on... J'ai passé là pour un article par ailleurs 2 jours dans la correspondance d'Epstein et je vous assure que vraiment j'en ai eu la nausée. C'est effectivement, et vous le soulignez, cette espèce d'irréalité dans la fabrication de l'argent. Vous vous rendez compte d'ailleurs que beaucoup de fortunes en réalité sont des fortunes qui sont mendiées avec ce fameux moyen des levées de fonds aujourd'hui qui constitue le point de départ de la plupart des réussites capitalistiques et cette irréalité. Emmanuel Todd, vous savez, explique que en fait le calcul du PIB aujourd'hui est complètement faussé et qu'il y a une tendance à la survalorisation d'un certain nombre d'actifs et on pourrait parler d'entreprises par exemple comme Uber qui n'ont jamais dégagé de bénéfices et qui pourtant ont toujours trouvé des actionnaires pour les porter et accorder une capitalisation boursière qui est colossal. Et ça peut poser un certain nombre de questions. D'une certaine façon, c'est un peu l'histoire du pantalon à une jambe. Je pense que certains comprendront où je veux en venir. C'est-à-dire que la perception l'emporte sur la réalité. Et au fond, qu'importe de savoir si Uber a quelque valeur intrinsèque que ce soit, tant que certains le pensent, Et bien, le système de rencontre de l'offre et de la demande sur le marché financier fixe un prix. Et on est dans cet état des choses-là qui, effectivement, renforce la déréalisation, la virtualisation et qui ne peut que conduire à une forme d'égarement. Sur le lien, parce que vous l'évoquiez au tout départ, je voulais réagir, entre Dieu et l'argent. D'ailleurs, c'est à peu près à la même époque, vous savez qu'on a la création des ordres mendiants, c'est les dominicains à Toulouse, ça va être l'ordre franciscain, et on considère que la mendicité de ces ordres, c'est le meilleur moyen de témoigner de la confiance en Dieu, puisqu'on n'organise pas sa subsistance, on la sollicite, et on la sollicite par la providence, et donc l'existence de ces ordres, leur subsistance, c'est un témoignage de la miséricorde de Dieu. Quand vous êtes dans une situation de l'extrême inverse, je vous renvoie à l'évangile, comme il sera plus difficile pour un riche d'entrer au paradis que de faire rentrer un pied de chameau dans une aiguille. C'est pas au sens d'une condamnation morale de la richesse, mais c'est de dire que quand on est riche, eh bien, on se sent moins sujet en réalité. À la loi de Dieu, on a moins besoin de Dieu d'une certaine façon. Et dans des cas de richesse extrême, eh bien, on finit par se prendre pour Dieu lui-même. Je vous rappelle que le compte bancaire de Jeffrey Epstein portait pour nom Baal. Donc Baal, c'est une divinité ancienne auquel on donnait des sacrifices, et notamment des sacrifices d'enfants. Et vous avez une dimension profondément eschatologique. J'invite aussi ceux qui nous regardent à visionner l'interview de Steve Bannon, enfin de Jeffrey Epstein par Steve Bannon sur la question du Christ, par exemple. Et il y a beaucoup d'incroyants dans ce monde, mais je vous assure que ces gens-là, eux, ont un rapport véritablement spirituel à l'action qu'ils développent contre le Christ, mais ils ont un rapport spirituel quand même. Donc il y a un lien entre la question de l'enrichissement et celle de l'éloignement de Dieu et donc de la loi et donc de la morale d'une certaine façon.
Rémy Tell, il nous reste 2 minutes. Pour vous, cette affaire Epstein, elle est symptomatique, elle est révélatrice, elle est apocalyptique au sens où ça y est, il va y avoir un réveil des consciences, ou malgré tout, non, c'est un pavé de plus qui tombe lentement dans une mare aux eaux bien boueuses et qui ne feront même pas un clapotis.
Ça peut paraître paradoxal parce qu'à la fois vous avez des noms de puissants cités sans qu'il se passe véritablement quoi que ce soit. Vous n'avez pas eu une seule arrestation pour le moment suite à la révélation des documents Epstein. Et puis de toute évidence, un certain nombre de protagonistes restent protégés puisque leurs noms sont noircis. En même temps, je crois qu'on ne peut pas faire pire. Et là, le pavé, si vous voulez, est inarrêtable. Enfin, il y a des ricochets partout, y compris dans les grands médias. Et je crois vraiment que ça servira de révélateur et qu'il y a même sans doute une dimension eschatologique à cette publication. Le FBI explique d'ailleurs que l'ordinateur de Jeffrey Epstein aurait été hacké depuis le Vatican. Donc il y a quelque chose certainement à en faire. Quoi, évidemment, je ne le sais pas, mais je pense qu'on n'est pas prêt de mesurer l'ampleur des répercussions politiques et économique de cette affaire Epstein dont on n'a qu'une partie des tenants pour le moment.
Eh bien, merci beaucoup Rémy Tell de cette analyse de l'affaire Epstein. Et évidemment, on va continuer à faire en sorte que cela soubresaute jusqu'à à obtenir des résultats plus concrets. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Courtoisie. Et tout de suite, Jérémy Combe sur le savoir-vivre. Et ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir Tugdual Denis pour nous parler du Valeurs Actuelles de cette semaine.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Aujourd'hui, vous nous parlez de quelque chose qui est fondamental, la distance.
Exactement, on dit souvent que les Français sont distants. Et si cette distance, Richard, n'était pas un manque de chaleur, mais une forme très ancienne de respect. En France, la politesse surprend parfois. On ne tutoie pas facilement, on garde une certaine réserve, quoique, on observe avant de se rapprocher. Cette distance peut être interprétée comme de la froideur, mais dans l'histoire française, elle a toujours été tout le contraire. La distance n'est pas un rejet, c'est une zone de respect. Un espace laissé à l'autre pour exister sans être envahi. Pour comprendre cela, il faut remonter à la cour et au salon. Sous l'Ancien Régime, la société française est profondément hiérarchisée. Mais cette hiérarchie n'est pas brutale, elle est codifiée. À la cour de Louis XIV, chaque geste, chaque parole, chaque distance physique a un sens. On ne s'approche pas trop vite, on ne se permet pas trop tôt, pardon. La politesse sert alors à canaliser les rapports humains. Elle évite la confrontation directe, l'intrusion, la confusion des rôles. Être poli, ce n'est pas séduire, c'est ne pas s'imposer. Dans les salons du XVIIe et du XVIIIe siècle, on redoutait une chose plus que tout, le personnage envahissant. Celui qui parle trop fort, celui qui touche sans y être invité, celui qui se permet trop vite. On raconte que certains invités, pourtant brillants, n'étaient plus conviés, non pas pour ce qu'ils disaient, mais parce qu'ils ne savaient pas respecter la distance sociale. Ils occupaient trop l'espace, et dans une société de mesure, c'était impardonnable. Richard, la distance permettait plusieurs choses. Préserver la dignité de chacun, éviter les conflits, laisser le temps à la relation de se construire. On observe, on ajuste, on s'adapte. Ce n'est qu'une fois, cette distance respectée, que la proximité devenait possible et précieuse. La familiarité devait être méritée, jamais imposée. Aujourd'hui encore, cette logique est très présente. En France, on ne tutoie pas immédiatement, on ne se confie pas d'emblée, on respecte une forme de réserve initiale. Ce n'est pas de la froideur, c'est une politesse de protection. Elle dit « Je vous respecte assez pour ne pas vous envahir ». Dans la culture française, la politesse ne consiste pas à être démonstratif, elle consiste à être juste. Juste dans la distance, juste dans la parole, juste dans la présence. En France, la distance n'est pas un mur, c'est un espace de respect. Et parfois, la plus grande politesse consiste simplement à ne pas trop s'approcher.
Merci beaucoup Jérémy Combe.
Merci, à la semaine prochaine.
Ligne droite, la revue de presse.
Et la revue de presse, c'est avec notre partenaire Valeurs Actuelles qui titre cette semaine sur le fait que les entreprises en ont assez du wokisme et qu'il y a un retour au réel de l'économie. Bonjour Tugdual Denis.
Bonjour Richard, bonjour à tous vos auditeurs. Effectivement, cette semaine, on a publié une enquête qu'on préparait depuis pas mal de temps, puisque on a réalisé, en discutant avec des chefs d'entreprise, en voyant certaines réglementations qui peu à peu disparaissaient, que le wokisme touchait les limites de son artificialité quand il s'agissait du monde de l'entreprise. Je m'explique. Il existe depuis un certain nombre d'années des règles, notamment de RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociale des entreprises, qui obligent les sociétés à faire preuve de vertus écologiques, de vertus de discrimination positive, de tout un tas de normes qui s'accumulent sur celles déjà existantes administratives et qui là sont des normes sociétales et qui en fait pénalisent la productivité, la rentabilité et à la fin la pérennité économique des entreprises. Et nous sommes donc allés éplucher les réglementations de la Commission européenne. Nous sommes donc allés défricher le droit du travail contemporain, mais aussi aller interroger des chefs d'entreprise et des observateurs du monde économique et qui expliquent effectivement qu'il y a un monde entre ceux qui réfléchissent dans des bureaux à des nouvelles religions et des nouvelles doctrines et ceux qui, tous les jours, embauchent, font tourner des usines et sont obligés de livrer des bilans de société à peu près à l'équilibre.
Alors, c'est un dossier, comme d'habitude, tout à fait passionnant, avec la manière dont les États-Unis ont reflué. Il y a un chiffre absolument épatant. Vous expliquez que entre 2023 et 2025, la mention diversité, égalité, inclusion a disparu de 80 à 98% des documents américains. Mais parallèlement, en fait, cette finance responsable a, elle, désarmé la France. Et je crois que nous, on n'est pas sortis du mouvement.
Oui, et notamment sur les sujets de défense, nous consacrons un article de rebond à l'intérieur de ce dossier sur ce sujet. Il faut savoir que les entreprises de défense sont sorties des recommandations et des portefeuilles donc d'un certain nombre de fonds d'investissement, puisque il ne s'agit pas d'économies responsables. Or, si vous voulez, il y a une contradiction fondamentale entre le discours de réarmement, y compris dans la bouche du président, on en a déjà parlé tous les deux sur votre antenne, parfois de manière, comment dire, disproportionnée entre les intentions et les actes, mais on nous parle effectivement du retour des empires, de la nécessité d'être à la hauteur du réarmement des pays occidentaux ou du sud global, et en fait, on se rend compte que on a tout fait pour entraver aussi ce réarmement, puisque des grandes sociétés, des fleurons, qui peuvent être Thalès ou d'autres, par exemple, ou Safran, ont aujourd'hui parfois toutes les peines du monde à exister dans le portefeuille des fonds d'investissement.
Alors, il y a un autre article, évidemment, auquel j'ai été sensible. C'est ce long entretien avec Guilain Bénessa, qui revient sur les racines troubles de l'Union européenne.
Oui, écoutez, c'est la spécialité, effectivement, de cet essayiste, et qui corrobore cette idée effectivement que cette Union européenne, autrefois appelée Commission, enfin CE et toutes les dénominations qu'on a connues, était mal née et que le projet auquel on subit aujourd'hui trouve ses racines dans la manière dont il a été mal pensé à son commencement et qu'il y a comment dire un défaut de fabrication. Si je puis m'exprimer ainsi, dans cette institution.
Un gros défaut de conception, un défaut de fabrication, ça défaut en permanence. Merci beaucoup, Tugdual Denis, et à la semaine prochaine avec un autre numéro de Valeurs Actuelles.
Zone libre.
Et je reçois avec bonheur les chevilles ouvrières de cette matinale, ceux sans qui rien ne se ferait, ceux sans qui mon existence, en fait, aurait peu de sens.
Oh, dites pas ça.
Mais si, mais je tiens, mais sans vous, je ne suis rien. Bonjour, Louis Rigaudière.
Bonjour à tous et bonjour, cher Richard.
Alors, avez-vous une perle?
Alors, une perle, oui, on peut appeler ça comme ça, parce que je suis tombé sur un site hier soir, et pour embrayer sur le thème qu'on a beaucoup évoqué cette semaine, l'affaire Epstein, évidemment. Pour ceux qui s'y intéressent et pour ceux qui ne sauraient pas où trouver les documents originaux de cette affaire qui ont été publiés et qui sont très nombreux, on parle de millions de documents quand même, il y a un site qui répertorie tout ça, tous les mails, toutes les photos, et qui s'appelle Gmail. Alors, évidemment, c'est en lien avec le...
J comme Jean.
J comme jus de pomme.
Ouais, le Judas.
C'est un peu ça.
Et vous, Magda?
Comme Jordan.
C'est pas voilà, exactement. Voilà, Joris, merci. Et c'est assez extraordinaire, à la fois impressionnant, à la fois gênant, parce que vraiment, on a accès à tout, à la fois aux conversations évidemment écrites, aux échanges mails avec toutes les personnes concernées. C'est très bien fait. On peut vraiment voir Elon Musk, Donald Trump, Jack Lang, etc. Et les photos, évidemment, il y a des milliers et des milliers de photos. Je crois que j'avais comptabilisé presque 9000 photos qui ont été publiées. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça se limite pas à simple mail et photos. Ça va aussi au trajet en avion, avec toutes les dates, avec les personnes présentes dans l'avion, avec Jeffrey Epstein, avec une carte pour montrer d'où ils vont, point de départ, point d'arrivée. Mais également, et ça c'est plus surprenant, l'historique des commandes Amazon. Ça, c'est assez étonnant à voir. C'est très original. C'est-à-dire qu'on peut voir exactement ce qu'a acheté, à quel moment, Jeffrey Epstein. Et allez, pour vous donner un petit peu une mise en bouche, la dernière commande de Jeffrey Epstein de sa vie a eu lieu le 9 juillet 2019 et c'était un masque à oxygène.
C'est parfait. Et ben, Gmail, gmail.com.
Voilà, c'est exactement, vous le trouvez très 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 facilement. Et encore, hein, y a plein d'autres choses et c'est vraiment impressionnant comment ces deux développeurs anglais qui ont fait ça, si je ne me trompe pas, et c'est impressionnant. Donc allez-y.
Et je précise, comme je disais à ma chronique tout à l'heure, que Richard De Seize n'est pas cité dans
Gmail
pour la recherche.
Et écoutez, mais merci d'avoir levé ce doute, nous avions reçu des centaines de milliers de demandes. Et alors, de votre côté, Alexandre et Magda, vous avez
on va essayer de faire monter un peu le niveau, je pense, avec Magda. Peut-être que vous voulez commencer.
Avec Alexandre, on a eu une grande discussion. Mmh. On est dérangé par ça parce qu'en fait, il s'avère qu'en mai 2025, il y a maintenant 9 mois, il s'est passé quelque chose. 4000 petits lapins blancs se sont retrouvés en cavale dans le Maine-et-Loire, qui est devenu un clapier géant, puisqu'un camion s'est retrouvé dans un fossé en route vers l'abattoir. Voilà. Donc, c'est ces petits lapins qui ont échappé à leur
mort. Et ça commençait comme une belle histoire, mais...
Mais, en fait, que sont devenus ces 4000 petits lapins, dans le Maine-et-Loire?
Et alors?
Et il se trouve que, justement, aucune enquête n'a été faite, et ces 4000 petits lapins se retrouvent... Actuellement, en fait, livrés à eux-mêmes.
Livrés à eux-mêmes dans le Maine-et-Loire, des petits lapins blancs tout mignons, et je pense que ça vaudrait le coup d'aller sur le terrain.
Donc, on voulait vous demander, est-ce qu'on pourrait faire un reportage avec Magda peut-être la semaine prochaine?
Mais bien sûr, prenez 15 jours.
Peut-être 15 jours dans le Maine-et-Loire, en plus de la famille là-bas.
Le camion se renverse, 4000 lapins échappent à un sort carnaliste et patriarcal absolument effrayant, et pas un seul cadavre de lapin n'est retrouvé sur les lieux de l'accident.
Zéro enquête. Dans les forêts du Maine-et-Loire, vous pourrez trouver des petits lapins blancs, sûrement que ce sont...
Qui ont peut-être grossi depuis.
Grossi, puis qui ont des enfants, des petits-enfants, des petits-enfants.
Mais peut-être que là, on parle de...
40 000 maintenant.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'on parle de 40 000, de 400 000 petits lapins blancs dans le Maine-et-Loire.
Et aucun habitant du Maine-et-Loire ne dit rien. Il y a une omerta.
Alors peut-être qu'ils se sont tous fait des bons petits dîners.
Des civets, mais
malheureusement, c'est le scénario le plus probable.
Ça me paraît probable.
Mais donc, ils se sont volatilisés. Ils sont tous partis dans la même direction. Ils se sont éparpillés dans la nature.
C'est assez confus. Hein,
c'est un
il paraît qu'il y a un site que Louis Rigaudière a découvert, lapinmail.com.
On recense tous les petits lapins.
Non, mais ça, c'est étonnant comme information. Vous l'avez trouvé où?
C'est notre secret.
C'est le travail d'enquête aussi.
On va pas donner nos sources.
Déontologie oubliée. Alors, moi, j'ai une histoire un petit peu qui est pour le coup assez tragique en l'occurrence, parce que là, pour le coup, on reste plutôt sur le domaine du mystère. Moi, c'est. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, je sais qu'il est 9h40, que peut-être l'émotion serait un peu vive, chers auditeurs, mais bon là, je vous parle, en fait, je suis bien présent à Paris, mais je vous parle, mon cœur vous parle depuis Bruy-les-Baronnies, dans le sud de la Drôme, et plus précisément au collège Henri Barbusse, où bah, Collège Henri Barbusse, désormais tristement célèbre pour avoir, eh bien, l'autre jour, en fait, pas plus tard que le lundi, eh bien, en fait, la matinée, nous raconte-t-on, a commencé de façon inattendue au Collège Henri Barbusse. Et comment ? En effet, il y avait un renard qui était coincé dans les toilettes du collège. Dans les toilettes des garçons, c'est précisé quand même. Donc, voilà. Alors, l'animal, évidemment, était affolé. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on comprend parce qu'il était rentré. Alors, la piste accidentelle est bien sûr privilégiée à ce stade. Hein. On parle pas de piste criminelle pour le moment, même si une enquête judiciaire est sûrement ouverte, contrairement à ces lapins, justement. Mais voilà. Et donc, voilà, en fait, le renard aurait comme ça erré à travers les bâtiments pour se retrouver finalement coincé dans les toilettes, coincé en boule, si vous voulez.
C'est
en fait,
effrayant.
Bah, non, mais oui, mais je sais. Mais
vous en parlez avec une véritable émotion.
Bah, peut-être parce que voilà, j'ai toujours eu toujours une affection sincère pour ce petit goupil, quoi. Et alors, le pire n'est même pas là encore, c'est que les pompiers ont dû intervenir pour faire sortir le renard. Mais vous croyez que les pompiers, ils sont spécialisés pour la libération des animaux sauvages ? Ils savent pas faire, non ? Non ?
Alors, le renard a été blessé ?
Non, il n'a pas été blessé, mais il aurait bien pu. Donc voilà, ils y sont arrivés. Mais bon, ils ont fini par réussir à le mettre dans une cage et à le libérer. Donc tout va bien. Enfin, relâcher en haut
d'une montagne.
Ils ont
réussi à le libérer en le mettant dans une cage. Voilà. Si jamais les auditeurs de Radio Courtoisie veulent avoir un exemple de la confusion des esprits qui règne en ce moment.
Non, mais ensuite, ils l'ont mis en haut d'une montagne.
En même temps macronien d'Alexandre de Galzin.
Vous caricaturez. Je ne peux pas vous laisser dire ça. À ce stade, je suis désolé.
Vous condamnez fermement ?
Bah oui, je vais peut-être me rendre sur place d'ailleurs. Donc d'ailleurs, autre reportage, j'irai donc la semaine prochaine aussi au Collège Henri Barbusse, dans le sud de la Drôme, voilà, à Buis-les-Baronnies.
En tout cas, je salue la performance d'Alexandre de tenir 2 minutes sur une histoire de renard coincé dans les toilettes. C'est vraiment une performance, bravo.
Voilà, et merci. Si jamais vous avez vraiment envie d'une véritable information, venez sur Radio Courtoisie tous les matins. Et à défaut de venir sur Radio Courtoisie tous les matins, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est la fin de YouTube et du X, mais évidemment, on continue sur les ondes hertziennes. Et pour que vous puissiez nous entendre parler de lapins, de l'Iran, de capitalisme et d'une manière générale de l'actualité, n'hésitez pas, donnez-nous des sous.
Soutenez-nous financièrement en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et en adressant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Et tout de suite, la rediffusion de notre entretien passionnant de ce matin avec Amélie Chély, iranologue qui a la chance de connaître les gens qui, sur place, sont soumis à la répression. L'Iran, le régime peut-il chuter ?
Ligne droite. Debout les Français.
Et on va se mettre debout avec Amélie Chély, iranologue et donc sociologue spécialisée dans l'Iran et les idéologies islamistes. Je rappelle votre dernier ouvrage, Paris, 13 novembre 2045, qui est paru l'année dernière au CERF. Bonjour Amélie Chély.
Bonjour à vous.
Alors, aujourd'hui, il y a une rencontre normalement diplomatique entre les États-Unis et l'Iran. Mais d'abord, donnez-nous des nouvelles de la rue, donnez-nous des nouvelles de la répression.
La répression a tout écrasé. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une forme de résistance du système de la République islamique par sa force létale. C'est-à-dire qu'on a eu, surtout entre le 8 janvier et le 10 janvier, un écrasement de tout élan protestataire. D'autant que ce sont des élans protestataires qui avaient été bien valorisés, bien exaltés par l'assurance américaine qu'une aide était en cours de route. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis sur place qui, entendant cette injonction de Donald Trump, ont décidé de sortir et de protester avec beaucoup plus de force et d'énergie qu'ils ne l'avaient fait auparavant. Sur les 12 amis, 11 ont été arrêtés. Voilà, ça peut donner une vague idée. Alors bien évidemment, ça c'est juste une connaissance. Je ne sais pas comment dans tout le reste du pays les choses se sont passées. On a des chiffres qui sont extrêmement différents, avec bien évidemment d'un côté du spectre ceux de la République islamique, de l'autre ceux de personnes qui, par des réseaux de médecins, essaient d'établir des chiffres qui sont un peu stupéfiants par l'ampleur. On ne sait pas encore véritablement, ça c'est le temps qui permettra l'établissement de choses avec plus de sérieux. Mais il n'y a pas que les morts qui arrêtent les élans protestataires. Il y a aussi la mort sociale et professionnelle, parce que ça, on en parle assez peu. mais la République islamique joue beaucoup de la menace, du chantage quant au maintien en poste de certaines personnes qu'on aurait vues manifester. Donc tout cela est également à prendre en compte.
Alors, vous nous décrivez un pays, effectivement, où la répression a été féroce. Il y a 15 jours, la République islamique reconnaissait 3117 morts. Les estimations de différentes ONG ou personnes attentives aux statistiques des différents hôpitaux et des morts, etc., parlaient plutôt d'un bilan de 30 000 morts. C'est un chiffre qui a aussi été avancé par deux fonctionnaires iraniens anonymes interrogés par le Time. À votre avis, quel est le chiffre le plus réaliste, même si déjà 3117 morts, chiffre officiel, est un chiffre absolument terrifiant?
Mais je ne peux pas avoir de chiffres à mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que ça se situe entre ceux donnés par la République islamique et celui de 30 000. Après, il faut véritablement faire un travail d'archivage, un travail de témoignage, un travail de rapport, un travail qui pourrait s'émanciper justement de la surveillance du régime. Tout cela prend du temps. Moi, à ma petite échelle, la seule chose dont j'ai l'absolue assurance, c'est qu'il y a eu des arrestations, puisque et qu'il y a eu évidemment des décès, mais combien, je n'en sais rien. Je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de familles qui ont au moins déploré l'existence d'un mort parmi eux. Mais encore une fois, je ne connais pas des gens venant de l'intégralité du pays. Souvent, c'est concentré sur les grandes et les villes moyennes, pour ce qui me concerne. Donc, il faut attendre, tout simplement. Pour l'instant, il faut attendre.
Amélie Chély, vous avez commencé à me répondre en mettant en avant très justement les assurances que Donald Trump, ou plutôt les États-Unis, avaient données aux Iraniens en leur expliquant « Allez-y, descendez, on est juste derrière ». C'est d'ailleurs exactement ce que les États-Unis avaient fait, sans Trump à l'époque, avec les Irakiens, en les encourageant à descendre et à se révolter. Et là aussi, ceux qui avaient écouté les États-Unis s'étaient fait crosser, matraquer et tuer par les forces irakiennes, exactement comme les Iraniens. Pourquoi les États-Unis ont-ils ainsi prétendu soutenir une révolte sans venir? Et quel est en ce moment le véritable poids des diplomatiques des États-Unis en Iran?
Les Iraniens, depuis toujours, en fait, ça fait partie aussi de la propagande de la République islamique, et elle n'est pas totalement fausse à ce titre-là. C'est-à-dire qu'on passe son temps à dire « Attention, les États-Unis, sur cette terre, font la pluie et le beau temps ». Ça n'est pas totalement faux, on en a encore la preuve aujourd'hui. Et forcément, alors pourquoi est-ce que la République islamique dit cela? C'est surtout pour mettre en garde les Iraniens qui auraient un trop grand enthousiasme protestataire contre la perspective d'avoir les moudjahidines du peuple à leur place. Il faut savoir que les États-Unis, depuis un certain nombre de mandats, depuis le premier mandat de Trump, c'est encore plus visible, a tendance à vouloir soutenir les courants qui déstabilisent la République islamique, qu'il s'agisse de courants féministes, droits de l'hommiste, régionalistes ou autres. Et évidemment, les moudjahidines du peuple sont sur la liste. Les moudjahidines du peuple, pour rappel, c'est un groupe d'opposition à la République islamique qui est islamiste aussi, c'est pas un groupe qui est séculariste du tout, et qui s'était illustré au cours de la guerre Iran-Irak pour devenir les traducteurs des geôliers irakiens qui avaient réussi à faire prisonnier des Iraniens. Donc les Iraniens détestent les moudjahidines du peuple, ils détestent leur actuel régime, mais ils détestent encore plus les moudjahidines du peuple. Donc c'est un élément de langage très régulièrement invoqué par la classe politique iranienne actuelle que de dire « faites attention, les États-Unis en ce bas monde font la pluie et le beau temps, et si vous continuez de déstabiliser le système à l'intérieur, et bien demain vous aurez les moudjahidines du peuple soutenus par les États-Unis ». Donc c'est l'une des raisons qui fait que les Iraniens ont une telle considération des États-Unis. Elle n'est pas totalement fausse. Et puis par ailleurs, vous avez aussi cette figure qui ne fait pas l'unanimité parmi les Iraniens, mais qui a le mérite d'exister. C'est la figure du fils héritier du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, dont les Iraniens savent, sans trop se tromper, je pense, que c'est un futur allié si jamais il devait prendre le pouvoir un jour, ce qui n'est absolument pas fait encore, un allié américain et israélien. Donc, dans leur esprit, si jamais on en vient à préférer cette option à l'actuel régime, ce qui commence à être de plus en plus fréquent, sans être majoritaire, encore une fois, en Iran, surtout depuis le 10 janvier, eh bien, voilà, on a cette notion d'arrière-cour américaine dans toutes les manœuvres qui pourraient être opérées en matière de déstabilisation.
Merci Amélie Chély. Je rappelle que je suis en train de vous interroger sur l'Iran et que tout à l'heure nous reparlerons de cette région avec Benjamin Blanchard et nous parlerons aussi démographie tout à l'heure en grand entretien avec Raymond Debord. Amélie Chély, donc on a bien parlé de la situation interne à l'Iran. Aujourd'hui, tous les regards sont braqués sur les négociations qui sont censées commencer. Avec Caroline Leavitt qui a expliqué que Trump possède de nombreuses options à sa disposition en dehors de la diplomatie. Donc là aussi, évidemment, on pense à des options militaires puisque Trump a expliqué qu'une véritable armada avait cinglé vers l'Iran. Et un chercheur français de l'Institut Montaigne explique qu'il est vraisemblable que les dirigeants de la République islamique jugent possible de survivre à une nouvelle campagne de frappe comme ils ont survécu à la guerre des 12 jours. À votre avis, est-ce que les négociations en cours ont une chance d'aboutir ou est-ce que c'est un cul-de-sac?
Alors, s'ils ont une chance d'aboutir, on n'en saura jamais les tenants et les aboutissants. Pour une raison qui est très simple, c'est que la République islamique, depuis plusieurs décennies, ne tient plus par l'intérieur, mais tient par l'extérieur. C'est-à-dire que la population iranienne ne croit plus en l'idéologie du Veloyat Efari, c'est-à-dire de la tutelle du juriste théologien. C'est l'idéologie qui est actuellement en place depuis plus de 45 ans. Veuillez m'excuser, c'est le matin. Et en revanche, la République islamique compte beaucoup sur son rayonnement à l'extérieur du pays. Alors, on compte évidemment ce fameux axe de la Mourawama qui a été sévèrement affaibli pendant la guerre des 12 jours avec le Hezbollah, le Hamas, Ansarullah, etc., etc. Mais la République islamique tient aussi énormément avec des esprits, par exemple des esprits de non-alignement qui fonctionnent très bien dans les pays sud-américains, mais aussi dans des esprits très à gauche dans tout le reste du monde, avec l'esprit BRICS, avec un certain nombre finalement de soft power qui ne se concentrent pas exclusivement sur le religieux. Or, si la République islamique souscrit dans le cadre de négociations à des desiderata américains, la République islamique perdra toute espèce de crédibilité aux yeux de cet univers-là qui continue de soutenir la République islamique dans ce fameux esprit du David contre Goliath. Donc si jamais il doit y avoir des négociations qui aboutissent, une chose est sûre, nous n'en saurons jamais véritablement les tenants et les aboutissants, parce qu'une chose est sûre en revanche, c'est que ça devrait être des négociations en faveur des États-Unis plus que de l'Iran.
Alors, des négociations en faveur des États-Unis, effectivement, on sait que Donald Trump, c'est Make America Great Again et America First. En l'occurrence, par rapport à ce contexte des BRICS que vous avez rappelé, les diplomates iraniens sont allés chercher un soutien en Russie, on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à l'obtenir. Ils sont allés chercher un soutien en Chine et on a l'impression que la Chine les a aidés à reconstituer leurs forces de missiles balistiques. Et est-ce que les Iraniens ont une véritable marge de manœuvre indépendamment, effectivement, de cette stature internationale qu'ils entendent avoir?
Alors, ils ont une marge de manœuvre à l'externe et en interne, pour deux points totalement différents. Depuis même avant le premier mandat de Trump, il ne faut pas l'oublier, même si Barack Obama est l'homme des accords sur le nucléaire, l'homme qui a finalement donné beaucoup d'espoir au peuple iranien avec la possibilité de la levée des sanctions si le signataire iranien répondait bien à sa contrepartie concernant la nucléarisation civile et non pas militaire. Sous Barack Obama, c'est là qu'il y a eu le plus de vols de cerveau. C'est-à-dire que l'Iran en a déjà voulu à l'administration Obama d'avoir facilité le départ de grands ingénieurs, grands scientifiques iraniens vers les États-Unis. Hein. Ensuite, ça s'est perpétré avec évidemment Donald Trump qui se retire des accords, etc., etc. Donc, on a depuis tout ce temps un Iran qui n'a pas tout de suite fait confiance aux États-Unis et qui a décidé d'opérer deux grands virages pour continuer de se prémunir d'éventuelles dégradations des relations avec l'Occident. D'abord, c'est ce qu'on appelle le pivot vers l'Est. En effet, quand il y a eu la signature des accords, ce qui intéressait l'Iran, c'était de pouvoir faire des marchés avec l'Europe et les États-Unis parce qu'ils sont l'incarnation de la bonne qualité, contrairement à la Chine, dont les médicaments sont supposément de moins bonne qualité, ou certainement est-ce le cas, je ne m'y connais pas. Et donc, ce pivot vers l'Est a accouché de meilleures relations avec la Russie, mais aussi de plans de coopération sur 25 ans, par exemple, avec la Chine, etc. Mais aussi en misant sur l'établissement ou la construction de ce qu'on appelle en Iran le Oyande Pajuri, c'est-à-dire les technologies du futur, les études du futur pour fournir, et c'est toujours le cas aujourd'hui, le plus grand nombre d'ingénieurs de toute la région. L'Iran est doté de très 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 grands scientifiques qui sont mis au service de la République islamique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez une telle sophistication de la force létale en matière de répression. Donc avec ces deux choses-là, la classe politique peut effectivement penser, à tort ou à raison, qu'elle sera en mesure de résister si jamais il va y avoir à nouveau un conflit armé.
Eh bien, merci beaucoup Amélie Chély sur ces éclaircissements que vous nous apportez sur la situation iranienne, et j'espère à bientôt sur Radio Courtoisie.
À bientôt, merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Sèze.
Chers amis, c'est la fin, ou presque, en tout cas de cette matinée. Merci à tous ceux qui ont participé, Arnaud, Magda, Louis, Alexandre et évidemment dans l'ombre Maïlis et Liselotte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous l'a demandé 20 fois, on va vous le demander encore une fois. C'est très bien de nous soutenir parce que ça nous permet d'exister.
Effectivement, on ne vous le répétera jamais assez, votre soutien financier est primordial à la survie de Radio Courtoisie. Faites-nous des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Eh bien, avec tout cet argent, on réalise d'excellentes émissions. Et par exemple, aujourd'hui, Arnaud.
Alors, tout à l'heure, à midi, Libre Journal des idées politiques, dirigé par Antoine Dumaine, archive du 2 mai 2025, l'énergie ZFE Cinéma et la société civile contre-attaque. À 17h, Histoires à la loupe de Patrick Simon, document d'archives du 25 juillet 2025, consacré à la guerre, témoignage de Pierre Drieux-La Rochelle, troisième et dernière partie. À 17h30, en direct, Restons Courtois, dirigé ce soir par Marc Baudrier, à suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie et sur X. Puis à 19h30, le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aglon, le Yacht Club, les avions de la route, Kezako. Et puis ce soir à 23h, Chant Grégorien proposé par Patrick Banken. Et cette semaine, la messe du dimanche de la Sexagésime dans l'interprétation du chœur monastique de Saint-Martin du Ligugé.
Eh bien, merci beaucoup Arnaud. Et je ne vous dis pas à demain, mais à lundi, car demain, c'est samedi.
À lundi.